As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Section 26, chapitre 12 du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. On nous écrit de Tarascon. Par une belle après-midi de ciel bleu et de brise tiède, Sidi Tartri, à califourchon sur sa mule, revenait tout seulet de son petit clos. Les jambes écartées par de larges coussins en sparterie que gonflaient les cédras et les pastèques, bercées au bruit de ses grands étriers et suivant de tout son corps le balin-ballant de la bête, le brave homme s'en allait ainsi dans un paysage adorable, les deux mains croisées sur son ventre, aux trois quarts assoupis par le bien-être et la chaleur. Tout à coup, en entrant dans la ville, un appel formidable le réveilla.
Hey, « Hé, monstre de sort, on dirait monsieur Tartarin !»
À ce nom de Tartarin, à cet accent joyeusement méridional, le Tarasconnais leva la tête et aperçut à deux pas de lui la brave figure tannée de maître Barbassou, le capitaine du Zouave, qui prenait l'absinthe en fumant sa pipe sur la porte d'un petit café.
Hey, « Hé, adieu, Barbassou !»
fit Tartarin en arrêtant sa mule. Au lieu de lui répondre, Barbassou le regarda un moment avec de grands yeux. Puis le voilà parti à rire tellement que Sidi Tartri en resta tout interloqué, le derrière sur ses pastèques.
« Qu'est turbant, mon pauvre monsieur Tartarin! C'est donc vrai ce qu'on dit, que vous vous êtes fait tort? Et la petite Baya, est-ce qu'elle chante toujours Marco la Belle ?»«
Marco la Belle ?» fit Tartarin indigné. « Apprenez, capitaine, que la personne dont vous parlez est une honnête fille maure, et qu'elle ne sait pas un mot de français. »«
Baya? Pas un mot de français? D'où sortez-vous donc ?»
Et le brave capitaine se remit à rire plus fort. Puis, voyant la mine du pauvre Sidi Tartri qui s'allongeait, il se ravisa.
Au fait, ce n'est peut-être pas la même. Mettons que j'ai confondu. Seulement, voyez-vous, monsieur Tartarin, vous ferez tout de même bien de vous méfier des mauresques algériennes et des princes du Monténégro.
Tartarin se dressa sur ses étriers en faisant sa moue.
Le prince est mon ami, capitaine. Bon, bon, ne nous fâchons pas. Vous ne prenez pas une absinthe, non ? Rien à faire dire au pays ? Non plus ? Eh bien, alors bon voyage. À propos, collègue, j'ai là du bon tabac de France, si vous en vouliez emporter quelques pipes. Prenez donc, ça vous fera du bien. Ce sont vos sacrés tabacs d'Orient qui vous barbouillent les idées. »
Là-dessus, le capitaine retourna à son absinthe, et Tartarin, tout pensif, reprit au petit trot le chemin de sa maisonnette. Bien que sa grande âme se refusât à rien en croire, les insinuations de Barbassou l'avaient attristé, puis ses jurons du cru, l'accent de là-bas, tout cela éveillait en lui de vagues remords. Au logis, il ne trouva personne, Baya était au bain. La négresse lui parut laide, la maison triste. En proie à une indéfinissable mélancolie, il vint s'asseoir près de la fontaine et bourra une pipe avec le tabac de Barbassou. Ce tabac était enveloppé dans un fragment du sémaphore. En le déployant, le nom de sa ville natale lui sauta aux yeux. On nous écrit de Tarascon. La ville est dans les transes. Tartarin, le tueur de lions, parti pour chasser les grands félins en Afrique, n'a pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Qu'est devenu notre héroïque compatriote? On ose à peine se le demander, quand on a cru comme nous cette tête ardente, cette audace, ce besoin d'aventure. A-t-il été comme tant d'autres englouti dans le sable, ou bien est-il tombé sous la dent meurtrière d'un de ces monstres de l'Atlas dont il avait promis les peaux à la municipalité? Terrible incertitude! Pourtant, des marchands nègres, venus à la foire de Beaucaire, prétendent avoir rencontré en plein désert un Européen dont le signalement se rapportait au sien et qui se dirigeait vers Tombouctou. Dieu nous garde, notre Tartarin! Quand il lut cela, le Tarasconnais rougit, pâlit, frissonna. Tout Tarascon lui apparut. Le cercle, les chasseurs de casquettes, le fauteuil vert chez Costecalde, et planant au-dessus comme un aigle éployé, la formidable moustache du brave commandant Bravida. Alors, de se voir là, comme il était, lâchement accroupi sur sa natte, tandis qu'on le croyait en train de massacrer des fauves, Tartarin de Tarascon eut honte de lui-même et pleura. Tout à coup, le héros bondit. « Au lion, au lion !» et s'élançant dans le réduit poudreux où dormaient la tente-abri, la pharmacie, les conserves, la caisse d'armes, il les traîna au milieu de la cour. Tartarin Sancho venait d'expirer. Il ne restait plus que Tartarin Quichotte. Le temps d'inspecter son matériel, de s'armer, de se harnacher, de rechausser ses grandes bottes, d'écrire deux mots au prince pour lui confier Baïa, le temps de glisser sous l'enveloppe quelques billets bleus mouillés de larmes, et l'intrépide Tarasconnais roulait en diligence sur la route de Blida, laissant à la maison sa négresse stupéfaite devant le narguilé, le turban, les babouches, toute la défroque musulmane de Sidi Tartri qui traînait piteusement sous les petits trèfles blancs de la galerie. Fin de la section 26, chapitre 12 du deuxième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 27, chapitre 1er du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Troisième épisode, chez les lions. Chapitre 1er. Les diligences déportées. C'était une vieille diligence d'autrefois, capitonnée à l'ancienne, mode de drap gros bleu tout fané, avec ses énormes pompons de laine rêche qui, après quelques heures de route, finissent par vous faire des moxas dans le dos. Tartarin de Tarascon avait un coin de la rotonde. Il s'y installa de son mieux, et en attendant de respirer les émanations musquées des grands félins d'Afrique, le héros dut se contenter de cette bonne vieille odeur de diligence, bizarrement composé de mille odeurs, hommes, chevaux, femmes et cuirs, victuailles et pailles moisies. Il y avait de tout un peu dans cette rotonde. Un trappiste, des marchands juifs, deux cocottes qui rejoignaient leur corps, le troisième hussard, un photographe d'Orléansville. Mais si charmante et variée que fût la compagnie, le Tarasconnais n'était pas en train de causer, et resta là tout pensif, le bras passé dans la brassière, avec ses carabines entre ses genoux. Son départ précipité, les yeux noirs de Baïa, la terrible chasse qu'il allait entreprendre. Tout cela lui troublait la cervelle. Sans compter qu'avec son bon air patriarcal, cette diligence européenne retrouvée en pleine Afrique lui rappelait vaguement le Tarascon de sa jeunesse, des courses dans la banlieue, de petits dîners au bord du Rhône, une foule de souvenirs. Peu à peu, la nuit tomba. Le conducteur alluma ses lanternes. La diligence rouillée sautait en criant sur ses vieux ressorts. Les chevaux trottaient, les grelots tintaient. De temps en temps, là-haut, sous la bâche de l'impériale, un terrible bruit de ferraille. C'était le matériel de guerre. Tartarin de Tarascon, aux trois quarts assoupi, resta un moment à regarder les voyageurs comiquement secoués par les cahots et dansant devant lui comme des ombres falotes. Puis ses yeux s'obscurcirent, sa pensée se voila, et il n'entendit plus que très vaguement geindre les cieux des roues et les flancs de la diligence qui se plaignaient. Subitement, une voix de vieille fée, enrouée, cassée, fêlée, appela le Tarasconnais par son nom.
« Monsieur Tartarin, Monsieur Tartarin !»«
Qui m'appelle ?»«
C'est moi, Monsieur Tartarin. Vous ne me reconnaissez pas ? Je suis la vieille diligence qui faisait, il y a 20 ans, le service de Tarascon à Nîmes. Que de fois je vous ai porté, vous et vos amis, quand vous alliez chasser les casquettes du côté de Jonquières ou de Bellegarde. Je ne vous ai pas remis d'abord à cause de votre bonnet de teur et du corps que vous avez pris. Mais si tôt que vous vous êtes mis à ronfler, coquin de mon sort, je vous ai reconnu tout de suite. »
« C'est bon, c'est bon !» fit le Tarasconnais un peu vexé. Puis se radoucissant. « Mais enfin, ma pauvre vieille, qu'est-ce que vous êtes venue faire ici ?»«
Ah, mon bon monsieur Tartarin, je n'y suis pas venue de mon plein gré, je vous assure. Une fois que le chemin de fer de Beaucaire a été fini, ils ne m'ont plus trouvé bonne à rien, et ils m'ont envoyée en Afrique. Et je ne suis pas la seule. Presque toutes les diligences de France ont été déportées comme moi. On nous trouvait trop réactionnaires, et maintenant nous voilà toutes ici à mener une vie de galère. C'est ce qu'en France vous appelez les chemins de fer algériens. »
Ici, la vieille diligence poussa un long soupir. Puis elle reprit.
« Ah, monsieur Tartarin, que je le regrette, mon bon Tarascon. C'était alors le bon temps pour moi, le temps de la jeunesse. Il fallait me voir partir le matin, lavée à grande eau, et toute luisante avec mes roues vernissées à neuf, mes lanternes qui semblaient deux soleils et ma bâche toujours frottée d'huile. C'est ça qui était beau quand le postillon faisait claquer son fouet sur l'air de « Lagadigadou, la tarasque, la tarasque ». Et que le conducteur, son piston en bandoulière, sa casquette brodée sur l'oreille, jetant d'un tour de bras son petit chien toujours furieux sur la bâche de l'impérial, s'élançait lui-même là-haut en criant
« Allume, allume !»
Alors mes quatre chevaux s'ébranlaient au bruit des grelots, des aboiements, des fanfares, les fenêtres s'ouvraient, et tout Tarascon regardait avec orgueil la diligence détalée sur la grande route royale. Quelle belle route, monsieur Tartarin! Large, bien entretenue, avec ses bornes kilométriques, ses petits tas de pierres régulièrement espacés, et de droite et de gauche ses jolies plaines d'oliviers et de vignes. Puis des auberges tous les 10 pas, des relais toutes les 5 minutes. Et mes voyageurs, quels braves gens! Des maires et des curés qui allaient à Nîmes voir leur préfet ou leur évêque, de bons taffetassiers qui revenaient du Mazet bien honnêtement, des collégiens en vacances, des paysans en blouse brodée tout frais rasés du matin. Et là-haut, sur l'impérial, vous tous, messieurs les chasseurs de casquettes, qui étiez toujours de si bonne humeur et qui chantiez si bien chacun la vôtre le soir aux étoiles en revenant. Maintenant, c'est une autre histoire. Dieu sait les gens que je charrie. Un tas de mécréants venus je ne sais d'où qui me remplissent de vermine, des nègres, des bédouins, des soudards, des aventuriers de tous les pays, des colons en guenilles qui m'empestent de leurs pipes, et tout cela parlant un langage auquel Dieu le Père ne comprendrait rien. Et puis vous voyez comme on me traite. Jamais brossé, jamais lavé. On me plaint le cambouis de mes essieux. Au lieu de mes gros bons chevaux tranquilles d'autrefois, de petits chevaux arabes qui ont le diable au corps, se battent, se mordent, dansent en courant comme des chèvres et me brisent mes brancards à coups de pied. Aïe, aïe! Tenez, voilà que cela commence. Et les routes! Par ici, c'est encore supportable, parce que nous sommes près du gouvernement. Mais là-bas, plus rien, pas de chemin du tout. On va comme on peut, à travers monts et plaines, dans les palmiers nains, dans les lentisques. Pas un seul relais fixe. On arrête aux caprices du conducteur, tantôt dans une ferme, tantôt dans une autre. Quelquefois, ce polisson-là me fait faire un détour de 2 lieues pour aller chez un ami boire l'absinthe ou le champoreau. Après quoi, fouette postillon, il faut rattraper le temps perdu. Le soleil cuit, la poussière brûle. Fouette toujours. On accroche, on verse. Fouette plus fort. On passe des rivières à la nage, on s'enrhume, on se mouille, on se noie. Fouette, fouette, fouette. Puis le soir, toute ruisselante, c'est cela qui est bon à mon âge avec mes rhumatismes. Il me faut coucher à la belle étoile dans une cour de caravansérail ouverte à tous les vents. La nuit, des chacals, des hyènes viennent flairer mes caissons, et les maraudeurs qui craignent la rosée se mettent au chaud dans mes compartiments. Voilà la vie que je mène, mon pauvre monsieur Tartarin, et je la mènerai jusqu'au jour où, brûlé par le soleil, pourri par les nuits humides, je tomberai, ne pouvant plus faire autrement, sur un coin de méchante route, où les Arabes feront bouillir leur couscous avec les débris de ma vieille carcasse.
« Blida, Blida !» fit le conducteur en ouvrant la portière. Fin de la section 27. Chapitre 1er du 3e épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 28. Chapitre 2 du 3e épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezois. Où l'on voit passer un petit monsieur. Vaguement, à travers les vitres dépolies par la buée, Tartarin de Tarascon entrevit une place de jolie sous-préfecture, place régulière,
entourée d'arcades et plantée d'orangers, au milieu de laquelle de petits soldats de plomb faisaient l'exercice dans la claire brume rose du matin. Les cafés ôtaient leurs volets. Dans un coin, une halle avec des légumes. C'était charmant, mais cela ne sentait pas encore le lion. Au sud, plus au sud, murmura le bon Tartarin en se renfonçant dans son coin. À ce moment, la portière s'ouvrit. Une bouffée d'air frais entra, apportant sur ses ailes, dans le parfum des orangers fleuris, un tout petit monsieur en redingote noisette, vieux, sec, ridé, compassé, une figure grosse comme le poing, une cravate en soie noire haute de 5 doigts, une serviette en cuir, un parapluie. Le parfait notaire de village. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais, le petit monsieur, qui s'était assis en face, parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. On détela, on attela, la diligence partit. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. À la fin, le Tarasconnais prit la mouche. « Ça vous étonne ? » fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face.
« Non, ça me gêne, »
répondit l'autre fort tranquillement. Et le fait est qu'avec sa tente à bris, son revolver, ses 2 fusils dans leur gaine, son couteau de chasse, sans parler de sa corpulence naturelle, Tartarin de Tarascon tenait beaucoup de place. La réponse du petit monsieur le fâcha. « Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie ?» dit le grand homme fièrement. Le petit monsieur regarda son parapluie, sourit doucement, puis, toujours avec son même flegme. « Alors, monsieur, vous êtes ?»« Tartarin de Tarascon, tueur de lion. » En prononçant ces mots, l'intrépide Tarasconnais secoua comme une crinière le gland de sa chéchia. Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Le trappiste se signa. Les cocottes poussèrent de petits cris d'effroi, et le photographe d'Orléansville se rapprocha du tueur de lion, rêvant déjà l'insigne honneur de faire sa photographie. Le petit monsieur, lui, ne se déconcerta pas. « Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions, monsieur Tartarin ? » demanda-t-il très tranquillement. Le Tarasconnais le reçut de la belle manière. « Si j'en ai beaucoup tué, monsieur, je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. » Et toute la diligence de rire en regardant les 3 cheveux jaunes de Cadet-Roussel qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. À son tour, le photographe d'Orléans prit la parole. « Terrible profession que la vôtre, monsieur Tartarin. On passe quelquefois de mauvais moments. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. Ah oui, le tueur de panthères !» fit Tartarin assez dédaigneusement. « Est-ce que vous le connaissez ?» demanda le petit monsieur. « T'es pardi, si je le connais, nous avons chassé plus de 20 fois ensemble. » Le petit monsieur sourit. « Vous chassez donc la panthère aussi, monsieur Tartarin ?» « Quelquefois, par passe-temps, » fit l'enragé Tarasconnais. Il ajouta, en relevant la tête d'un geste héroïque qui enflamma le cœur des 2 cocottes, « Ça ne vaut pas le lion. » En somme, hasarda le photographe d'Orléans, « une panthère, ce n'est qu'un gros chat. »« Tout juste, » fit Tartarin qui n'était pas fâché de rabaisser un peu la gloire de Bombonnel, surtout devant des dames. Ici, la diligence s'arrêta. Le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux, « Vous voilà arrivé, monsieur, » lui dit-il d'un air très respectueux. Le petit monsieur se leva, descendit, puis avant de refermer la portière, « Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil, monsieur Tartarin ?»« Lequel, monsieur ?»« Ma foi, écoutez, vous avez l'air d'un brave homme. J'aime mieux vous dire ce qu'il en est. Retournez vite à Tarascon, monsieur Tartarin. Vous perdez votre temps ici. Il reste bien encore quelques panthères dans la province. Mais fi donc, c'est un trop petit gibier pour vous. » Quant au lion, c'est fini, il n'en reste plus en Algérie. Mon ami Chassin vient de tuer le dernier. » Sur quoi le petit monsieur salua, ferma la portière, et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. « Conducteur, » demanda Tartarin en faisant sa moue, « qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là ? » ?»« Comment ? Vous ne le connaissez pas ? Mais c'est monsieur Bombonnel !» Fin de la section 28, chapitre 2 du 3e épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 29. Chapitre 3 du 3e épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. Un couvent de lions. À Miliana, Tartarin de Tarascon descendit, laissant la diligence continuer sa route vers le sud. 2 jours de dur chaos. 2 nuits passées, les yeux ouverts, à regarder par la portière s'il n'apercevrait pas dans les champs, au bord de la route, l'ombre formidable du lion. Tant d'insomnie méritait bien quelques heures de repos. Et puis, s'il faut tout dire, depuis sa mésaventure avec Bombonnel, le loyal Tarasconnais se sentait mal à l'aise, malgré ses armes, sa moue terrible, son bonnet rouge, devant le photographe d'Orléansville et les deux demoiselles du troisième hussard. Il se dirigea donc à travers les larges rues de Miliana, pleines de beaux arbres et de fontaines. Mais tout en cherchant un hôtel à sa convenance, le pauvre homme ne pouvait s'empêcher de songer aux paroles de Bombonnel. Si c'était vrai pourtant, s'il n'y avait plus de lions en Algérie, à quoi bon alors tant de courses, tant de fatigues? Soudain, au détour d'une rue, notre héros se trouva face à face, avec qui? Devinez. Avec un lion superbe qui attendait devant la porte d'un café, assis royalement sur son train de derrière, sa crinière fauve dans le soleil.
Qu'est-ce qu'il me disait donc qu'il n'y en avait plus?
S'écria le Tarasconnais en faisant un saut en arrière. En entendant cette exclamation, le lion baissa la tête, et prenant dans sa gueule une sébile en bois posée devant lui sur le trottoir, il l'attendit humblement du côté de Tartarin, immobile de stupeur. Un arabe qui passait jeta un gros sou dans la sébile. Le lion remua la queue. Alors Tartarin comprit tout. Il vit ce que l'émotion l'avait d'abord empêché de voir, la foule attroupée autour du pauvre lion aveugle et apprivoisé, et les deux grands nègres armés de gourdins qui le promenaient à travers la ville comme un savoyard sa marmotte. Le sang du Tarasconnais ne fit qu'un tour.
« Misérable ! » cria-t-il d'une voix de tonnerre. « Ravaler ainsi ces nobles bêtes !»
Et s'élançant sur le lion, il lui arracha l'immonde sébile d'entre ses royales mâchoires. Les deux nègres, croyant avoir affaire à un voleur, se précipitèrent sur le Tarasconnais, la matraque haute. Ce fut une terrible bousculade. Les nègres tapaient, les femmes piaillaient, les enfants riaient. Un vieux cordonnier juif criait du fond de sa boutique
« Aux ouches de paix! Aux ouches de paix !»
Le lion lui-même, dans sa nuit, essaya d'un rugissement, et le malheureux Tartarin, après une lutte désespérée, roula par terre au milieu des gros sous et des balayures. À ce moment, un homme fendit la foule, écarta les nègres d'un mot, les femmes et les enfants d'un geste, releva Tartarin, le brossa, le secoua, et l'assit tout essoufflé sur une borne.
« Comment, prince, c'est vous ? »
fit le bon Tartarin en se frottant les côtes. « Eh oui, mon vaillant ami, c'est moi. Sitôt votre lettre reçue, j'ai confié Baïa à son frère, loué une chaise de poste, fait 50 lieues ventre à terre, et me voilà juste à temps pour vous arracher à la brutalité de ces rustres. Qu'est-ce que vous avez donc fait, juste Dieu, pour vous attirer cette méchante affaire? Que voulez-vous, prince? De voir ce malheureux lion avec sa sébile aux dents, humilié, vaincu, bafoué, servant de risée à toute cette pourrie musulmane? Mais vous vous trompez, mon noble ami. Ce lion est, au contraire, pour eux un objet de respect et d'adoration. C'est une bête sacrée qui fait partie d'un grand couvent de lions fondé il y a 300 ans par Mahomet Ben Aouda, une espèce de trappe formidable et farouche, pleine de rugissements et d'odeurs de fauve, où des moines singuliers élèvent et apprivoisent des lions par centaines et les envoient de là dans toute l'Afrique septentrionale, accompagnés de frères quêteurs. Les dons que reçoivent les frères servent à l'entretien du couvent et de sa mosquée, et si les deux nègres ont montré tant d'humeur tout à l'heure, c'est qu'ils ont la conviction que pour un seul sou de la quête, volé ou perdu par leur faute, le lion qu'ils conduisent les dévorerait immédiatement. En écoutant ce récit invraisemblable et pourtant véridique, Tartarin de Tarascon se délectait et reniflait l'air bruyamment. « Ce qui me va dans tout ceci, fit-il en matière de conclusion, c'est que, n'en déplaise à M. Bombonnel, il y a encore des lions en Algérie. S'il y en a, dit le prince avec enthousiasme, dès demain nous allons battre la plaine de Chélif et vous verrez. Et quoi, prince, auriez-vous l'intention de chasser vous aussi? Parbleu! Pensez-vous donc que je vous laisserai vous en aller seul en pleine Afrique, au milieu de ces tribus féroces dont vous ignorez la langue et les usages? Non, non, illustre Tartarin, je ne vous quitte plus. Partout où vous serez, je veux être. Oh, prince, prince! » Et Tartarin, radieux, pressa sur son cœur le vaillant Grégory, en songeant avec fierté qu'à l'exemple de Jules Gérard, de Bombonnel et tous les autres fameux tueurs de lions, il allait avoir un prince étranger pour l'accompagner dans ses chasses.
Fin de la section 29, chapitre 3 du troisième épisode.
Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 30. Chapitre 4 du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoie. La caravane en marche. Le lendemain, dès la première heure, l'intrépide Tartarin et le non moins intrépide prince Grégory, suivis d'une demi-douzaine de portefaix nègres, sortaient de Miliana et descendaient vers la plaine de Chélif par un raidillon délicieux tout ombragé de jasmin, de touya, de caroubiers, d'oliviers sauvages, entre deux haies de petits jardins indigènes et des milliers de joyeuses sources vives qui dégringolaient de roche en chantant. Un paysage du Liban. Aussi chargé d'armes que le grand Tartarin, le prince Grégory s'était en plus affublé d'un magnifique et singulier képi tout galonné d'or, avec une garniture de feuilles de chêne brodées au fil d'argent, qui donnait à son Altesse un faux air de général mexicain ou de chef de garde des bords du Danube. Ce diable de képi intriguait beaucoup le Tarasconnais, et comme il demandait timidement quelques explications, « Coiffure indispensable pour voyager en Afrique, » répondit le prince avec gravité, et tout en faisant reluire sa visière d'un revers de manche, il renseigna son naïf compagnon sur le rôle important que joue le képi dans nos relations avec les Arabes, la terreur que cet insigne militaire a seul le privilège de leur inspirer, si bien que l'administration civile a été obligée de coiffer tout son monde avec des képis, depuis le cantonnier jusqu'au receveur de l'enregistrement. En somme, pour gouverner l'Algérie, c'est toujours le prince qui parle, pas n'est besoin d'une forte tête, ni même de tête du tout. Il suffit d'un képi, d'un beau képi galonné, reluisant au bout d'une trique comme la toque de Gessler. Ainsi, causant et philosophant, la caravane allait son train. Les portefaix, pieds nus, sautaient de roche en roche avec des cris de singe. Les caisses d'armes sonnaient, les fusils flambaient, les indigènes qui passaient s'inclinaient jusqu'à terre devant le képi magique. Là-haut, sur les remparts de Miliana, le chef du bureau arabe, qui se promenait au bon frais avec sa dame, entendant ces bruits insolites et voyant des armes luire entre les branches, crut à un coup de main, fit baisser le pont-levis, battre la générale et mit incontinent la ville en état de siège. Beau début pour la caravane. Malheureusement, avant la fin du jour, les choses se gâtèrent. Des nègres qui portaient les bagages, l'un fut pris d'atroces coliques pour avoir mangé le sparadrap de la pharmacie. Un autre tomba sur le bord de la route, ivre mort d'eau-de-vie camphrée. Le troisième, celui qui portait l'album de voyage, séduit par les dorures du fermoir et persuadé qu'il enlevait les trésors de la Mecque, se sauva dans le zaccar à toutes jambes. Il fallut aviser. La caravane fit halte et tint conseil dans l'ombre trouée d'un vieux figuier. « Je serais d'avis, dit le prince, en essayant, mais sans succès, de délayer une tablette de pemmican dans une casserole perfectionnée à triple fond, je serais d'avis que, dès ce soir, nous renoncions aux porteurs nègres. Il y a précisément un marché arabe tout près d'ici. Le mieux est de nous y arrêter et de faire emplette de quelques bourricots. « Non, non, pas de bourricots !» interrompit vivement le grand Tartarin, que le souvenir de Noirot avait fait devenir tout rouge. Et il ajouta, l'hypocrite, « Comment voulez-vous que de si petites bêtes puissent porter tout notre attirail ?» Le prince sourit. « C'est ce qui vous trompe, mon illustre ami. Si maigre et si chétif qu'il vous paraisse, le bourricot algérien a l'air insolide. Il le faut bien pour supporter tout ce qu'il supporte. Demandez plutôt aux Arabes. Voici comment ils expliquent notre organisation coloniale. En haut, disent-ils, il y a Moussi le gouverneur, avec une grande trique, qui tape sur l'état-major. L'état-major, pour se venger, tape sur le soldat. Le soldat tape sur le colon. Le colon tape sur l'arabe. L'arabe tape sur le nègre. Le nègre tape sur le juif. Le juif, à son tour, tape sur le bourricot. Et le pauvre petit bourricot, n'ayant personne sur qui taper, tend l'échine et porte tout. Vous voyez bien qu'il peut porter vos caisses. C'est égal, reprit Tartarin de Tarascon. Je trouve que pour le coup d'œil de notre caravane, des ânes ne feraient pas très bien. Je voudrais quelque chose de plus oriental. Ainsi, par exemple, si nous pouvions avoir un chameau. Tant que vous en voudrez, fit l'Altesse, et l'on se mit en route pour le marché arabe. Le marché se tenait à quelques kilomètres sur les bords du Chélif. Il y avait là 5 ou 6 000 Arabes en guenilles, grouillant au soleil et trafiquant bruyamment au milieu des jarres d'olives noires, des pots de miel, des sacs d'épices et des cigares en gros tas, de grands feux où rôtissaient des moutons entiers, ruisselant de beurre, des boucheries en plein air,
où des nègres tout nus, les pieds dans le sang, les bras rouges, dépeçaient avec de petits couteaux des chevreaux pendus à une perche. Dans un coin, sous une tente rapetassée de mille couleurs, un greffier maure avec un grand livre et des lunettes. Ici un groupe, des cris de rage, c'est un jeu de roulette installé sur une mesure à blé et des kabyles qui s'éventrent autour. Là-bas, des trépignements, une joie, des rires. C'est un marchand juif avec sa mule qu'on regarde se noyer dans le chélif. Puis des scorpions, des chiens, des corbeaux et des mouches, des mouches! Par exemple, les chameaux manquaient. On finit pourtant par en découvrir un dont des mzabites cherchaient à se défaire. C'était le vrai chameau du désert, le chameau classique, chauve, l'air triste, avec sa longue tête de bédouin et sa bosse qui, devenue flasque par suite de trop longs jeûnes, pendait mélancoliquement sur le côté. Tartarin le trouva si beau qu'il voulut que la caravane entière montât dessus. Toujours la folie orientale. La bête s'accroupit. On sangla les mâles. Le prince s'installa sur le cou de l'animal. Tartarin, pour plus de majesté, se fit hisser tout en haut de la bosse, entre deux caisses. Et là, fier et bien calé, saluant d'un geste noble tout le marché accouru, il donna le signal de départ. Tonnerre ! Si ceux de Tarascon avaient pu le voir ! Le chameau se redressa, allongea ses grandes jambes à nœuds et prit son vol. Oh, stupeur ! Au bout de quelques enjambées, voilà Tartarin qui se sent pâlir, et l'héroïque Chéchia qui reprend une à une ses anciennes positions du temps du zouave. Ce diable de chameau tanguait comme une frégate. « Prince, prince !» murmura Tartarin tout blême, et s'accrochant à l'étoupe sèche de la bosse, « Prince, descendons, je sens que je vais faire bafouer la France. »« Va te promener !» Le chameau était lancé, et rien ne pouvait plus l'arrêter. 4000 Arabes couraient derrière, pieds nus, gesticulant, riant comme des fous, et faisant luire au soleil 600 000 dents blanches. Le grand homme de Tarascon dut se résigner. Il s'affaissa tristement sur la bosse. La Chéchia prit toutes les positions qu'elle voulut. Et la France fut bafouée. Fin de la section 30, chapitre 4 du troisième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 31, chapitre 5 du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoie. L'affût du soir dans un bois de laurier rose. Si pittoresque que fut leur nouvelle monture, nos tueurs de lions durent y renoncer par égard pour la Chéchia. On continua donc la route à pied, comme devant, et la caravane s'en alla tranquillement vers le sud par petites étapes. Le Tarasconnais en tête, le Monténégrin en queue, et dans les rangs, le chameau avec les caisses d'armes. L'expédition dura près d'un mois. Pendant un mois, cherchant des lions introuvables, le terrible Tartarin erra de douar en douar dans l'immense plaine du Chélif, à travers cette formidable et cocasse Algérie française, où les parfums du vieil Orient se compliquent d'une forte odeur d'absinthe et de caserne, à brame et zouzou mêlés, quelque chose de féerique et de naïvement burlesque, comme une page de l'Ancien Testament racontée par le sergent Laramé ou le brigadier Pitou. Curieux spectacle pour des yeux qui auraient su voir. Un peuple sauvage et pourri que nous civilisons en lui donnant nos vices. L'autorité féroce et sans contrôle de bachagas fantastiques qui se mouchent gravement dans leur grand cordon de la Légion d'honneur et pour un oui ou pour un non font bâtonner les gens sur la plante des pieds. La justice sans conscience de cadis à grosses lunettes, tartuffe du Coran et de la loi, qui rêve de 15 août, et de promotion sous les palmes, et vendent leurs arrêts, comme Mésahu, son droit d'aînesse, pour un plat de lentilles ou de couscous au sucre. Des caïds libertins et ivrognes, anciens brosseurs d'un général Youssouf quelconque, qui se saoulent de champagne avec des blanchisseuses mahonnaises, et font des ripailles de mouton rôti, pendant que, devant leur tente, toute la tribu crève de faim, et dispute aux lévriers les rogatons de la ribote seigneuriale. Puis tout autour, des plaines en friche, de l'herbe brûlée, des buissons chauves, des maquis de cactus et de lentisques, le grenier de la France. Grenier vide de grains, hélas, et riche seulement en chacals et en punaises. Des douars abandonnés, des tribus effarées qui s'en vont sans savoir où, fuyant la faim, et semant des cadavres le long de la route. De loin en loin, un village français avec des maisons en ruine, des champs sans culture, des sauterelles enragées
qui mangent jusqu'aux rideaux des fenêtres, et tous les colons dans les cafés, en train de boire de l'absinthe en discutant des projets de réforme et de constitution. Voilà ce que Tartarin aurait pu voir, s'il s'en était donné la peine. Mais tout entier à sa passion léonine, l'homme de Tarascon allait droit devant lui, sans regarder ni à droite ni à gauche, l'œil obstinément fixé sur ces monstres imaginaires qui ne paraissaient jamais. Comme la tente abri s'entêtait à ne pas s'ouvrir, et les tablettes de pemmican à ne pas fondre, la caravane était obligée de s'arrêter matin et soir dans les tribus. Partout, grâce au képi du prince Grégory, nos chasseurs étaient reçus à bras ouverts. Ils logeaient chez les agaces, dans des palais bizarres, grandes fermes blanches sans fenêtres, où l'on trouve pêle-mêle des narguilés et des commodes en acajou, des tapis de Smyrne et des lampes modérateurs, des coffres de cèdre pleins de sequins turcs et des pendules à sujet, style Louis-Philippe. Partout on donnait à Tartarin des fêtes splendides, des diffas, des fantasias. En son honneur, des goums entiers faisaient parler la poudre et luire leurs burnous au soleil. Puis, quand la poudre avait parlé, le bon aga venait et présentait sa note. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité arabe. Et toujours pas de lion. Pas plus de lion que sur le pont neuf. Cependant, le Tarasconnais ne se décourageait pas. S'enfonçant bravement dans le sud, il passait ses journées à battre le maquis, fouillant les palmiers nains du bout de sa carabine et faisant « frt, frt » à chaque buisson. Puis, tous les soirs avant de se coucher, un petit affût de 2 ou 3 heures. Peine perdue, le lion ne se montrait pas. Un soir pourtant, vers les 6 heures, comme la caravane traversait un bois de lentisques tout violet où de grosses cailles alourdies par la chaleur sautaient çà et là dans l'herbe, Tartarin de Tarascon crut entendre, mais si loin, mais si vague, mais si émietté par la brise, ce merveilleux rugissement qu'il avait entendu tant de fois là-bas à Tarascon, derrière la baraque mitaine. D'abord le héros croyait rêver. Mais au bout d'un instant, lointain toujours, quoique plus distinct, les rugissements recommencèrent. Et cette fois, tandis qu'à tous les coins de l'horizon on entendait hurler les chiens d'Édouard, secoués par la terreur et faisant retentir les conserves et les caisses d'armes, la bosse du chameau frissonna. Plus de doute, c'était le lion. Vite, vite, à l'affût, pas une minute à perdre. Il y avait tout juste près de là un vieux marabout, tombeau de saint, à coupole blanche, avec les grandes pantoufles jaunes du défunt déposées dans une niche au-dessus de la porte, et un fouillis d'ex-voto bizarre, pan de burnous, fil d'or, cheveux roux, qui pendaient le long des murailles. Tartarin de Tarascon y remisa son prince et son chameau, et se mit en quête d'un affût. Le prince Grégory voulait le suivre, mais le Tarasconnais s'y refusa. Il tenait à affronter le lion seul à seul. Toutefois, il recommanda à son Altesse de ne pas s'éloigner, et par mesure de précaution, il lui confia son portefeuille, un gros portefeuille plein de papiers précieux et de billets de banque, qu'il craignait de faire écornifler par la griffe du lion. Ceci fait, le héros chercha son poste. 100 pas en avant du marabout, un petit bois de laurier rosé tremblait dans la gaze du crépuscule, au bord d'une rivière presque à sec. C'est là que Tartarin vint s'embusquer, le genou en terre, selon la formule, la carabine au poing et son grand couteau de chasse planté fièrement devant lui dans le sable de la berge. La nuit arriva. Le rose de la nature passa au violet, puis au bleu sombre. En bas, dans les cailloux de la rivière, luisait comme un miroir à main une petite flaque d'eau claire. C'était l'abreuvoir des fauves. Sur la pente de l'autre berge, on voyait vaguement le sentier blanc que leurs grosses pattes avaient tracé dans les lentisques. Cette pente mystérieuse donnait le frisson. Joignez à cela le fourmillement vague des nuits africaines, branches frôlées, pas de velours d'animaux rôdeurs, aboiements grêles des chacals, et là-haut, dans le ciel, à 100, 200 mètres, de grands troupeaux de grues qui passent avec des cris d'enfants qu'on égorge. Vous avouerez qu'il y avait de quoi être ému. Tartarin l'était. Il l'était même beaucoup. Les dents lui claquaient, le pauvre homme. Et sur la garde de son couteau de chasse planté en terre, le canon de son fusil rayé sonnait comme une paire de castagnettes. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des soirs où l'on n'est pas en train. Et puis, où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur? Eh bien oui, Tartarin eut peur, et tout le temps encore. Néanmoins, il tint bon 1 heure, 2 heures, mais l'héroïsme a ses limites. Près de lui, dans le lit desséché de la rivière, le Tarasconnais entend tout à coup un bruit de pas, des cailloux qui roulent. Cette fois, la terreur l'enlève de terre. Il tire ses deux coups au hasard dans la nuit et se replie à toutes jambes sur le marabout, laissant son coutelas debout dans le sable comme une croix commémorative de la plus formidable panique qui ait jamais assailli l'âme d'un dompteur d'hydre.
« À moi, prince ! Le lion !»
Un silence.
« Prince ? Prince ? Êtes-vous là ?»
Le prince n'était pas là. Sur le mur blanc du marabout, le bon chameau projetait seul au clair de lune l'ombre bizarre de sa bosse. Le prince Grégory venait de filer en emportant portefeuille et billets de banque. Il y avait un mois que son Altesse attendait cette occasion.
Fin de la section 31, chapitre 5 du troisième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 32, chapitre 6 du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoy.
Enfin!
Le lendemain de cette aventureuse et tragique soirée, lorsqu'au petit jour notre héros se réveilla et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis, partis sans retour, lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe blanche, trahi, volé, abandonné en pleine Algérie sauvage avec un chameau à bosse simple et quelques monnaies de poche pour toute ressource, alors, pour la première fois, le Tarasconnais douta. Il douta du Monténégro, il douta de l'amitié, il douta de la gloire, il douta même des lions, et comme le Christ à Gethsémani, le grand homme se prit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là, pensivement assis sur la porte du marabout, sa tête dans ses deux mains, sa carabine entre ses jambes, et le chameau qui le regardait, soudain le maquis d'en face s'écarte, et Tartarin, stupéfait, voit paraître, à 10 pas devant lui, un lion gigantesque, s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout, tout chargés d'oripeaux, et jusqu'aux pantoufles du saint dans leur niche. Seul, le Tarasconnais ne trembla pas. « Enfin ! » cria-t-il en bondissant, la crosse à l'épaule.
« Pan ! Pan !
C'était fait. Le lion avait 2 balles explosibles dans la tête. Pendant une minute, sur le fond embrasé du ciel africain, ce fut un feu d'artifice épouvantable de cervelle en éclats, de sang fumant et de toison rousse éparpillée. Puis tout retomba, et Tartarin aperçut 2 grands nègres furieux qui couraient sur lui, la matraque en l'air. Les 2 nègres de Miliana. Oh, misère ! C'était le lion apprivoisé, le pauvre aveugle du couvent de Mahomet que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. 7 fois par Mahom, Tartarin l'échappa belle. Ivre de fureur fanatique, les 2 nègres quêteurs l'auraient sûrement mis en pièces, si le dieu des chrétiens n'avait envoyé à son aide un ange libérateur, le garde champêtre de la commune d'Orléansville arrivant, son sabre sous le bras, par un petit sentier. La vue du képi municipal calma subitement la colère des nègres. Paisible et majestueux, l'homme à la plaque dressa procès-verbal de l'affaire, fit charger sur le chameau ce qui restait du lion, ordonna aux plaignants comme aux délinquants de le suivre, et se dirigea sur Orléansville, où le tout fut déposé au greffe. Ce fut une longue et terrible procédure. Après l'Algérie des tribus qu'il venait de parcourir, Tartarin de Tarascon connut alors une autre Algérie non moins cocasse et formidable, l'Algérie des villes, processive et avocatière. Il connut la judiciaire louche qui se tripote au fond des cafés, la bohème des gens de loi, les dossiers qui sentent l'absinthe, les cravates blanches mouchetées de champoraux. Il connut les huissiers, les agréés, les agents d'affaires, toutes ces sauterelles du papier timbré affamées et maigres qui mangent le colon jusqu'aux tiges de ses bottes et le laissent déchiqueter feuille par feuille comme un plant de maïs. Avant tout, il s'agissait de savoir si le lion avait été tué sur le territoire civil ou le territoire militaire. Dans le premier cas, l'affaire regardait le tribunal de commerce. Dans le second, Tartarin relevait du conseil de guerre. Et, à ce mot de conseil de guerre, l'impressionnable Tarasconnais se voyait déjà fusillé au pied des remparts ou croupissant dans le fond d'un silo. Le terrible,
c'est que la délimitation des deux territoires est très vague en Algérie. Enfin, après un mois de courses, d'intrigues, de stations au soleil dans les cours des bureaux arabes, il fut établi que si d'une part le lion avait été tué sur le territoire militaire, d'autre part Tartarin, lorsqu'il tira, se trouvait sur le territoire civil. L'affaire se jugea donc au civil, et notre héros en fut quitte pour 2500 francs d'indemnité sans les frais. Comment faire pour payer tout cela? Les quelques piastres échappés à la razzia du prince s'en étaient allés depuis longtemps en papiers légaux et en absinthe judiciaire. Le malheureux tueur de lions fut donc réduit à vendre la caisse d'armes au détail, carabine par carabine. Il vendit les poignards, les crismalets, les casse-têtes. Un épicier acheta les conserves alimentaires. Un pharmacien, ce qui restait du sparadrap. Les grandes bottes elles-mêmes y passèrent, et suivirent l'attentabri perfectionné chez un marchand de bric-à-brac qui les éleva à la hauteur de curiosités cochin chinoises. Une fois tout payé, il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea sur Tarascon, à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour regagner Alger, non pas en montant dessus, mais en le vendant pour payer la diligence, ce qui est encore la meilleure façon de voyager à chameau. Malheureusement, la bête était d'un placement difficile, et personne n'en offrit un liard. Tartarin, cependant, voulait regagner Alger à toute force. Il avait hâte de revoir le corselet bleu de Baïa, sa maisonnette, ses fontaines, et de se reposer sur les trèfles blancs de son petit cloître, en attendant de l'argent de France. Aussi notre héros n'hésita pas, et navré, mais point abattu, il entreprit de faire la route à pied, sans argent, par petite journée. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable, et, le voyant sortir d'Orléans, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien, et ne le quittant pas d'une semelle. Au premier moment, Tartarin trouva cela touchant, cette fidélité, ce dévouement à toute épreuve lui allait au cœur, d'autant que la bête était commode et se nourrissait avec rien. Pourtant, au bout de quelques jours, le Tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique qui lui rappelait toutes ses mésaventures, puis l'aigreur s'en mêla, il lui en voulut de son air triste, de sa bosse, de son allure d'oie bridée. Pour tout dire, il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser, mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre, le chameau le retrouva. Il essaya de courir, le chameau courut plus vite. Il lui criait « Va-t'en !» en lui jetant des pierres. Le chameau s'arrêtait et le regardait d'un air triste. Puis, au bout d'un moment, il se remettait en route et finissait toujours par le rattraper. Tartarin dut se résigner. Pourtant, lorsque, après 8 grands jours de marche, le Tarasconnais poudreux, harassé, vit de loin étinceler dans la verdure les premières terrasses blanches d'Alger, lorsqu'il se trouva aux portes de la ville, sur l'avenue bruyante de Mustapha, au milieu des zouaves, des biscris, des mahonaises, tous grouillant autour de lui et le regardant défiler avec son chameau, pour le coup la patience lui échappa. « Non, non, dit-il, ce n'est pas possible, je ne peux pas entrer dans Alger avec un animal pareil !» Et profitant d'un encombrement de voitures, il fit un crochet dans les champs et se jeta dans un fossé. Au bout d'un moment, il vit au-dessus de sa tête, sur la chaussée de la route, le chameau qui filait à grandes enjambées, allongeant le cou d'un air anxieux. Alors, soulagé d'un grand poids, le héros sortit de sa cachette et rentra dans la ville par un sentier détourné qui longeait le mur de son petit clos. Fin de la section 32, chapitre 6 du troisième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 33. Chapitre 7 du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. Catastrophe sur catastrophe. En arrivant devant sa maison mauresque, Tartarin s'arrêta très étonné. Le jour tombait, la rue était déserte. Par la porte basse en ogive que la négresse avait oublié de fermer, on entendait des rires, des bruits de verre, des détonations de bouchons de champagne, et dominant tout ce joli vacarme, une voix de femme qui chantait, joyeuse et belle. « Aimes-tu, Marco la belle, la danse aux salons en fleurs ?»
tronc de Dieu !»
fit le Tarasconnais en pâlissant, et il se précipita dans la cour. Malheureux Tartarin ! Quel spectacle l'attendait ! Sous les arceaux du petit cloître, au milieu des flacons, des pâtisseries, des coussins épars, des pipes, des tambourins, des guitares, bâilla debout, sans veston bleu ni corselet, rien qu'une chemisette de gaze argentée et un grand pantalon rose tendre, chantait Marco la Belle avec une casquette d'officier de marine sur l'oreille. À ses pieds, sur une natte, gavée d'amour et de confiture, Barbassou, l'infâme capitaine Barbassou, se crevait de rire en l'écoutant. L'apparition de Tartarin, hâve, maigri, poudreux, les yeux flamboyants, la chéchia hérissée, interrompit tout net cette aimable orgie turco-marseillaise. Baïa poussa un petit cri de lévrette effrayée et se sauva dans la maison. Barbassou, lui, ne se troubla pas. Et riant de plus belle,
« Eh bien, monsieur Tartarin, qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez bien qu'elle savait le français. »
Tartarin de Tarascon s'avança furieux.
« Capitaine !»«
Digoli que venge, mon bon !»
cria la mauresque, se penchant de la galerie du premier avec un joli geste canaille. Le pauvre homme, atterré, se laissa choir sur un tambour. Sa mauresque savait même le marseillais.
« Quand je vous disais de vous méfier des Algériennes, » fit sentencieusement le capitaine Barbassou,
« c'est comme votre prince monténégrin. »
Tartarin releva la tête.
« Vous savez où est le prince ?»«
Oh, il n'est pas loin. Il habite pour 5 ans la belle prison de Mustapha. Le drôle s'est laissé prendre la main dans le sac. Du reste, ce n'est pas la première fois qu'on le met à l'ombre. Son Altesse a déjà fait 3 ans de maison centrale quelque part. Et tenez, je crois même que c'est à Tarascon. »«
À Tarascon ?»
s'écria Tartarin subitement illuminé.
« C'est donc ça qu'il ne connaissait qu'un côté de la ville ?»«
Eh, sans doute, Tarascon vu de la maison centrale. »« Ah, mon pauvre monsieur Tartarin, il faut joliment ouvrir l'œil dans ce diable de pays, sans quoi on est exposé à des choses bien désagréables. Ainsi votre histoire avec le Mouezine. »«
Quelle histoire? Quel Mouezine ?»«
T'es pardi, le Mouezine d'en face qui faisait la cour à Baïa. » L'Akbar a raconté l'affaire l'autre jour, et tout Alger en rit encore. C'est si drôle, ce mouezine qui, du haut de sa tour, tout en chantant ses prières, faisait sous votre nez des déclarations à la petite et lui donnait des rendez-vous en invoquant le nom d'Allah.
« Mais c'est donc tous des gredins dans ce pays ?»
hurla le malheureux Tarasconnais. Barbassou eut un geste de philosophe.
« Mon cher, vous savez, les pays neufs. C'est égal. Si vous m'en croyez, vous retournerez bien vite à Tarascon. »
Retourner, c'est facile à dire. Et l'argent, vous ne savez donc pas comme ils m'ont plumé là-bas dans le désert ?
Qu'à cela ne tienne, fit le capitaine en riant. Le zouave part demain, et si vous voulez, je vous rapatrie. Ça vous va-t-il, collègue ?
Alors très bien. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Il reste encore quelques fioles de champagne, une moitié du croustade. Asseyez-vous là, et sans rancune.
Après la minute d'hésitation que lui commandait sa dignité, le Tarasconnais prit bravement son parti. Il s'assit, on trinqua. Baïa, redescendu au bruit des verres, chanta la fin de Marco la Belle, et la fête se prolongea fort avant dans la nuit. Vers 3 heures du matin, la tête légère et le pied lourd, le bon Tartarin revenait d'accompagner son ami le capitaine, lorsqu'en passant devant la mosquée, le souvenir du mouezine et de ses farces le fit rire, et tout de suite, une belle idée de vengeance lui traversa le cerveau. La porte était ouverte. Il entra, suivi de longs couloirs tapissés de nattes, monta encore, et finit par se trouver dans un petit oratoire turc, où une lanterne en fer découpée se balançait au plafond, brodant les murs blancs d'ombres bizarres. Le mouezine était là, assis sur un divan, avec son gros turban, sa pelisse blanche, sa pipe de mostaganem, et devant un grand verre d'absinthe fraîche qu'il battait religieusement, en attendant l'heure d'appeler les croyants à la prière. À la vue de Tartarin, il lâcha sa pipe de terreur. « Pas un mot, curé !» fit le Tarasconnais qui avait son idée. « Vite, ton turban, ta pelisse !» Le curé turc, tout tremblant, donna son turban, sa pelisse, tout ce qu'on voulut. Tartarin s'en affubla et passa gravement sur la terrasse du minaret. La mer luisait au loin. Les toits blancs étincelaient au clair de lune. on entendait dans la brise marine quelques guitares attardées. Le muezzin de Tarascon se recueillit un moment, puis, levant les bras, il commença à psalmodier d'une voix suraiguë.
« La, la et la la ! Mahomet est un vieux farceur. L'Orient, le Coran, les Bachagas, les Lions, les Mauresques, tout ça ne vaut pas un viédase. Il n'y a plus de teurs, il n'y a que des carotteurs. Vive Tarascon !»
Et pendant qu'en un jargon bizarre, mêlé d'arabe et de provençal, l'illustre Tartarin jetait aux quatre coins de l'horizon, sur la ville, sur la plaine, sur la montagne, sa joyeuse malédiction tarasconnaise, la voix claire et grave des autres muezzines lui répondait, en s'éloignant de minaret en minaret, et les derniers croyants de la ville haute se frappaient dévotement la poitrine. Fin de la section 33, chapitre 7 du troisième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 34. Chapitre 8 du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoie. Tarascon, Tarascon. Midi. Le zouave chauffe, on va partir. Là-haut, sur le balcon du café Valentin, messieurs les officiers braquent la longue-vue et viennent, colonel en tête, par rang de grade, regarder l'heureux petit bateau qui va en France. C'est la grande distinction de l'état-major. En bas, la rade artificielle. La culasse des vieux canons turcs enterrés le long du quai flambe au soleil. Les passagers se pressent. Biscris et Mahonnet entassent les bagages dans les barques. Tartarin de Tarascon, lui, n'a pas de bagages. Le voici qui descend de la rue de la Marine par le petit marché, plein de bananes et de pastèques, accompagné de son ami Barbassou. Le malheureux Tarasconnais a laissé sur la rive du Maure sa caisse d'armes et ses illusions, et maintenant, il s'apprête à voguer vers Tarascon, les mains dans ses poches. À peine vient-il de sauter dans la chaloupe du capitaine, qu'une bête essoufflée dégringole du haut de la place et se précipite vers lui en galopant. C'est le chameau fidèle qui, depuis 24 heures, cherche son maître dans Alger. Tartarin, en le voyant, change de couleur et feint de ne pas le connaître. Mais le chameau s'acharne. Il frétille au long du quai. Il appelle son ami et le regarde avec tendresse. « Emmène-moi, » semble dire son œil triste. « Emmène-moi dans la barque, loin, bien loin de cette Arabie en carton peint, de cet Orient ridicule, plein de locomotives et de diligences, où, dromadaire déclassé, je ne sais plus que devenir. Tu es le dernier Turc, je suis le dernier chameau. Ne nous quittons plus, ô mon Tartarin. »
« Est-ce que ce chameau est à vous ?» demande le capitaine.
« Pas du tout !» répond Tartarin qui frémit à l'idée d'entrer dans Tarascon avec cette escorte ridicule. Et reniant impudemment le compagnon de ses infortunes, il repousse du pied le sol algérien et donne à la barque l'élan du départ. Le chameau flaire l'eau, allonge le cou, fait craquer ses jointures, et s'élançant derrière la barque à corps perdu, il nage de conserve vers le zouave, avec son dos bombé qui flotte comme une gourde et son grand col dressé sur l'eau en éperon de trirème. Barque et chameau viennent ensemble se ranger au flanc du paquebot.
« À la fin, il me fait de la peine, ce dromadaire !» dit le capitaine Barbassou tout ému. « J'ai envie de le prendre à mon bord. En arrivant à Marseille, j'en ferai hommage au jardin zoologique. »
On hissa sur le pont, à grand renfort de palans et de cordes, le chameau alourdi par l'eau de mer, et le zouave se mit en route. Les 2 jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine, non pas que la mer fût mauvaise, ni que la chéchia eût trop à souffrir, mais le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. Vous n'avez jamais vu un chameau afficher quelqu'un comme cela. D'heure en heure, par les hublots de la cabine où il mettait le nez quelquefois, Tartarin vit le bleu du ciel algérien pâlir. Puis, enfin, un matin, dans une brume d'argent, il entendit avec bonheur chanter toutes les cloches de Marseille. On était arrivé. Le zouave jeta l'ancre. Notre homme, qui n'avait pas de bagages, descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de 3e classe, filant bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse!
à peine à 2 lieues de Marseille, voilà toutes les têtes aux portières. On crie, on s'étonne. Tartarin, à son tour, regarde et qu'aperçoit-il ? Le chameau, monsieur, l'inévitable chameau qui détalait sur les rails, en pleine croc, derrière le train, et lui tenait pied. Tartarin, consterné, se rencoigna en fermant les yeux. Après cette expédition désastreuse, il avait compté rentrer chez lui incognito, mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait la chose impossible. Quelle rentrée il allait faire, bon Dieu ! Pas le son, pas de lion, rien ! Un chameau ! Tarascon ! Tarascon ! Il fallut descendre. Oh, stupeur ! À peine la chéchia du héros apparut-elle dans l'ouverture de la portière. Un grand cri.
« Vive Tartarin !»
fit trembler les voûtes vitrées de la gare.
« Vive Tartarin ! Vive le tueur de lions !»
Et des fanfares, des chœurs d'orphéons éclatèrent. Tartarin se sentit mourir. Il croyait à une mystification. Mais non. Tout Tarascon était là, chapeaux en l'air et sympathique. Voilà le brave commandant Bravida, l'armurier Costecalde, le président, le pharmacien, et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le portent en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage. La peau du lion aveugle envoyée à Bravida était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure exposée au cercle, les Tarasconnais, et derrière eux tout le midi, s'étaient montés la tête. Le sémaphore avait parlé. On avait inventé un drame. Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué. C'était 10 lions, 20 lions, une marmelade de lions. Aussi Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre sans le savoir, et un télégramme enthousiaste l'avait devancé de 2 heures dans sa ville natale. Mais ce qui mit le comble à la joie populaire, ce fut quand on vit un animal fantastique, couvert de poussière et de sueur, apparaître derrière le héros et descendre à cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un instant sa Tarasque revenue. Tartarin rassura ses compatriotes. « C'est mon chameau, » dit-il. Et déjà sous l'influence du soleil tarasconnais, ce beau soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta, en caressant la bosse du dromadaire, « C'est une noble bête. Elle m'a vu tuer tous mes lions. » Là-dessus, il prit familièrement le bras du commandant, rouge de bonheur, et, suivi de son chameau, entouré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le peuple, il se dirigea paisiblement vers la maison du Baobab, et, tout en marchant, il commença le récit de ses grandes chasses. « Figurez-vous, disait-il, qu'un certain soir, en plein Sahara. » Fin du chapitre 34, chapitre 8 du 3e épisode. Fin de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré en Belgique en septembre 2007.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.